Hello, hello,
salut.
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 Bon dimanche.
Bon matin. Enfin, bon appétit,
bon
apéro,
midi.
Bonne préparation.
On sait pas s'il y a des fidèles auditeurs, auditrices qui nous écoutent
on
tout de suite.
On est content que vous soyez là.
Ah oui, bon d'accord, ok, d'accord, on est content que vous soyez là.
Je vous vois.
Et bien, on va commencer par un petit morceau de musique, le temps de nous laisser, le temps de nous mettre en place.
D'avoir du temps.
On vient d'écouter Il Martello, le cercle des maximalistes, Faustina M. Detesco, I tre angoli del continente. Et on va continuer avec The Residents, Restaria. Voilà.
À tout à l'heure.
À toutes.
Thank you.
maintenant, on va vous passer la météo, parce que nous venons d'en recevoir une. C'est parti.
Du chaud et froid, du chaud et froid. La météo.
Eh bien, bonjour. On est dimanche, comme tous les jours. On est donc le 34e dimanche de ces deux derniers mois. Ces quelques jours d'absence au rendez-vous bulletin météo m'ont laissé le temps d'émettre une hypothèse sur ce scénario météoro-illogique. La pluie aurait-elle tenté une sortie en début du printemps, sans se munir de son attestation dérogatoire ? C'en est en tout cas assez de cette confinerie. Voilà que d'insolites averses se sont produites. On attend dans notre département un record pluviométrique de 8 mm ce dimanche. Un véritable épisode frénétique. Le ciel pleure, et nous aussi. Ne serait-il pas l'heure, comme la pluie, d'entamer un discret déconfinement ?
Yeah.
C'était des nèfles de Marteau Matraque.
Et merci beaucoup à Légumane pour sa météo. C'est bien d'avoir des nouvelles. Et puisqu'il n'y a pas eu d'émission de L'Envolé depuis 2 jours, on n'a pas diffusé les dernières nouvelles des prisons, dont celle de la révolte qui a éclaté le 17 avril, donc vendredi dernier, à la prison d'Écrouves. C'est à l'ouest de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Donc vers 18h, une quarantaine de prisonniers ont bloqué un étage, donc le troisième étage de l'atoll, en arrachant une grille de séparation, puis ont détruit des caméras et ont incendié leurs matelas et des détritus. Suite à quoi, 3 prisonniers ont été identifiés comme étant des meneurs et transférés dans la foulée au centre de détention de Nancy-Maxéville. Et 18 autres ont été transférés vers d'autres centres, à Toul, à Saint-Michel et à Strasbourg. Et bah, y a eu, pendant ce mois de confinement, d'autres attaques contre les tôles, hein, comme par exemple le 1er avril à Amiens, où des 3 véhicules du SPIP, hein, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et 2 fourgons ont été incendiés près de la maison d'arrêt. Donc de nouvelles enquêtes sont ouvertes pour des associations des malfaiteurs. Et d'ailleurs, l'information donnée par Nouchmi hier sur l'intérêt renouvelé des services de renseignement pour ce qu'ils appellent la mouvance de l'ultra-gauche a été effectivement confirmée aujourd'hui ou hier par un article du Monde. Donc malheureusement réservé aux abonnés, donc on n'a pas pu aller bien loin dans sa lecture. Il faut dire qu'il y a effectivement ces derniers temps pas mal d'incendies volontaires, des banques, comme il y a 3 jours à Toulouse, des mairies, comme il y a 2 jours près de Grenoble, des équipements de téléphonie, de fibre optique, des antennes relais, des chantiers d'infrastructures aussi, comme par exemple le chantier d'une future gare de métro en région parisienne, un McDo à Cray. Et pendant ce temps, les flics mettent la pression et déposent des plaintes contre des gens qui affichent des banderoles contestataires à leurs fenêtres, même quand ces banderoles ne font que réclamer des sous pour le service public ou des hôpitaux. Comme quoi, chacun mène sa guerre à l'ultra-gauche comme il l'entend.
Yes. Écoutons maintenant à Sante Caserio. Pietra Gori.
Lavoratori, a voi diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfidò la morte. A te Caserio arde nella pupilla delle vendette umane la scintilla e dalla plebe che lavora e geme donasti ogni tuo affetto, ogni tua speranza. Pentasti tu si buono e mite a scuoter l'alma schiave da ferite. Tremarono i potenti all'atto fiero e nuove insidie tesero al pensiero e il popolo cui l'anima donasti comprese pur tu non piegasti e i tuoi vent'anni, una feral mattina, gettasti al mondo dalla ghigliottina, al mondo villa tua, grande alma pia, alto gridando viva l'anarchia.
Du coup, ouais. En application de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, je sous-signais, etc., etc. On commence à connaître la ritournelle de ce début d'attestation de déplacement dérogatoire. Mais cette attestation est-elle vraiment obligatoire ? Ben, en fait, non. C'est en tout cas ce que j'ai pu déjà lire dans une interview de Raphaël Kempf, donc avocat au barreau de Paris, dans lundi matin, source discutable. Mais bon, les points qui sont abordés dans cette interview sont quand même assez intéressants. Donc Raphaël Kempf dit « Contrairement à une idée reçue dans une communication mensongère du ministre de l'Intérieur, cette attestation n'est pas obligatoire. » Et effectivement, j'ai vérifié sur le site de Légifrance, dans l'article 3 du décret du 30 mars 2020, il est noté « Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir lors de leur déplacement hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre les champs de l'une de ces exceptions, donc les 8 exceptions qu'on connaît, qui sont inscrites sur l'attestation. Voilà, en fait, il ne parle pas de cette fameuse attestation officielle, il parle juste d'un document. Donc, en fait, on pourrait juste écrire un document, peut-être sans avoir l'obligation de suivre à la lettre ce qui est écrit sur cette attestation dérogatoire. Tu veux réagir ?
Alors, moi j'avais un texte. J'ai un micro ou j'ai pas de micro ? Ah oui. non, du coup, ce document, on entend plein de trucs aussi. Est-ce que c'est dans cet article aussi où il parle du fait qu'on peut écrire des trucs au crayon à papier ?
Oui,
ou pas ?
Pareillement, ouais. Oui. En fait, le crayon à papier, c'est vraiment. C'est absolument pas écrit ni dans le décret ni dans aucune loi que le crayon à papier est obligatoire. Mmh. Interdit, pardon. Donc en fait, ça c'est vraiment de l'interprétation policière excessive. Il y a... Oui.
Tu voulais rajouter des trucs ?
Oui, je voulais rajouter un deuxième point qui est soulevé du coup, par Raphaël Kempf dans cette interview. C'est la constitutionnalité du délit de réitération de l'infraction de non-respect des règles de confinement, donc qui est prévu par ce décret. Il a donc déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article, donc contre cette loi. Donc là, c'est contre cette loi. Il dit le principe de l'égalité, enfin, qui n'est pas constitutionnel, qui exige que... Pardon, je m'embrouille. Non, bref. Il dit donc le principe de l'égalité qui exige que les délits soient prévus par la loi de façon suffisamment claire et précise pour ne laisser aucune place à l'arbitraire. Ce nouveau délit a été rédigé à la va-vite en quelques heures à l'Assemblée nationale par un gouvernement autoritaire, ne pensant qu'à pouvoir affirmer haut et fort que ce sera la prison pour ceux qui violent le confinement. Il était aidé en cela par des députés du parti présidentiel, aux ordres et en ordre de marche, dont la servilité et le manque d'attachement aux libertés ne nous ont jamais déçus depuis 3 ans. Bref, ce texte est rédigé dans un but de communication politique et afin de laisser la bride sur le coup aux policiers sur le terrain. Le résultat était donc évident, il est mal rédigé. Et il est tellement mal écrit qu'il viole les droits constitutionnels, ceux qui nous viennent de 1789 et de la Déclaration des droits, ce qui n'est pas rien. On l'a déjà aperçu, mais que veut dire verbaliser à plusieurs reprises ? Cela signifie-t-il que les contraventions doivent être définitives ? C'est pas clair, en fait. C'est d'autant moins clair que députés, magistrats, procureurs ont pu employer indifféremment des termes très différents pour en parler. On a ainsi pu entendre la procureure générale de la Cour d'appel de Paris parler de réitération, qui est un terme juridique très précis et qui exige des condamnations définitives antérieures.
La députée de la majorité rapporteur du projet de loi a quant à elle parlé de récidive, qui a un sens juridique tout aussi précis. On le voit, personne ne sait exactement de quoi on parle. Et c'était inévitable quand on sait que la récidive des contraventions des quatre premières classes n'existe pas. Donc, le gouvernement a donc essayé de créer un délit sur la récidive de contravention antérieure, ce qui est une impossibilité juridique, un oxymore, diraient les philosophes.
Donc, genre, ça veut dire que si tu brûles quatre fois un feu rouge, en fait, tu vas prendre quatre fois la même prune.
Ouais.
Et tu peux pas avoir une prune majorée parce que tu as brûlé quatre fois un feu rouge, quoi.
Oui, ça veut dire ça, mais ça veut aussi dire qu'en fait, là, donc, quand t'es arrêté pour, et que t'as eu une amende parce que t'as violé le confinement, là, tu pourras avoir récidive, et donc à la troisième récidive, une amende de...
Des peines de prison.
Des peines de prison, mais qu'en fait, c'est basé sur juste la contravention.
Uh-huh.
qui n'est pas validée par un acte juridique, en fait.
Okay.
Donc, en fait, t'es pas condamné, mais au final, là, avec ce nouveau décret, tu peux être condamné quand même, alors que ta première contravention n'a pas été validée.
Et du coup, c'est... Ouais,
Je continue, mais après... Deuxième argument de la... QPC, ce qu'on appelle l'incompétence négative du législateur, la constitution de la Ve République, on finira bien par s'en débarrasser un jour, mais elle prévoit néanmoins quelques garanties, exige que ce soit la loi qui définisse les délits. La loi, c'est-à-dire que ce n'est ni le décret, ni l'administration, et encore moins la police, qui peuvent dire ce qui est ou non un comportement délictuel. Or, on voit bien qu'ici, le délit est constitué au regard des contraventions antérieures, telles qu'elles sont constituées, ou non, au regard des exceptions prévues par un décret, ce fameux décret du 30 mars 2020. Donc plus encore, les modalités concrètes de mise en œuvre du nouveau texte sur le terrain laissent la part belle au pouvoir d'interprétation des policiers. Donc si une personne est jugée en comparution immédiate, puis éventuellement incarcérée parce qu'elle n'aura pas rempli correctement son attestation, cette personne pourra dire qu'elle est en prison, non pas en vertu d'un texte de loi clair et compréhensible, mais parce que des policiers ont jugé, au sens strict, qu'il en était ainsi. Cet argument critique donc le fait que la loi ait abdiqué son pouvoir au profit d'autres instances. Troisième argument, la présomption d'innocence, qui est aussi un principe cardinal et qui prévoit que tant qu'on n'est pas définitivement condamné, on doit être considéré comme innocent. Cela en nouveau encore de 1789. Avec ce nouveau délit, le principe est aboli. En effet, on juge et on condamne éventuellement le prévenu au regard des contraventions recensées dans le fichier ad hoc. Il en parlait plus haut dans l'interview, donc c'est le dossier que les policiers peuvent consulter lors du contrôle qui recense les précédentes verbalisations de la personne, et que le prévenu peut encore contester, normalement.
Et ouais, donc elles ne sont pas validées, quoi, voilà, ces contraventions.
Donc on envoie en prison des personnes qui ont peut-être été verbalisées à tort, avant d'être jugées en comparution immédiate, mais qui n'ont pas eu le temps de contester ces contraventions, et qui, donc en tout état de cause, ne sont pas définitives.
Et qui aussi, soit dit en passant, risque de ne pas avoir d'avocat pendant ces comparutions immédiates parce que les avocats refusent de se déplacer pour leur santé et la santé de leurs clients. Voilà, apparemment, certains avocats dans certains coins disent on veut privilégier notre santé et celle de nos clients, donc on ne se déplacera pas. Et il est hors de question de faire des défenses par téléconférence parce que en fait on peut pas garantir la sécurité de notre échange et l'anonymat de notre la confidentialité de notre échange si ça passe par des biais numériques, quoi. Donc on se déplacera pas et nous faites pas croire qu'on va faire des audiences pendant des gardes à vue par visioconférence, on refuse de le faire. Alors bon, c'est certain et c'est certains avocats qui disent ça. Mais du coup, est-ce que ça provoquera des gardes à vue sans avocat qui est illégal, en fait? Je sais pas. Voilà.
Bah, c'est déjà le cas.
Ouais.
Est-ce qu'on sait s'il y a eu déjà des cas d'acquittement de relax?
Oui, il y en a eu.
Ouais, il y en a eu. Là, je saurais pas te dire exactement, mais oui, il y a eu des cas de condamnation et des cas de relâche. Mais. Après, c'est ça, c'est que il y a plusieurs cas qui vont être de condamnation, par exemple, à 2, 3, 6 mois de prison, qui vont être jugés après. ouais. après la peine. Donc, en fait, okay. ils vont être peut-être. Peut-être que la condamnation ne sera pas, pas effective, mais après.
Après la peine.
Après la peine. Oui, parce que là, les personnes qui sont condamnées à la prison sont directement incarcérées, en comparution immédiate. Voilà.
Sur un autre sujet, mais ça parle aussi des avocats et des lieux d'enfermement. Moi, je vais lire un communiqué du SAF, le syndicat des avocats de France, qui parle d'une décision qui a été prise par le tribunal administratif de Paris le 15 avril. Donc le communiqué est daté du 16. Je vais le lire un peu froidement. Le 27 mars 2020, le Conseil d'État, saisi d'une demande de fermeture de l'ensemble des CRA, donc centre de rétention administrative, avait rejeté la requête. Les associations requérantes, dont le SAF, le GISTI ou l'ADE, avaient pourtant pointé du doigt le risque de création par l'administration de foyers infectieux, étant rappelé que du fait des fermetures des frontières, l'administration n'est plus en mesure de procéder à des mesures d'éloignement des étrangers, et que les étrangers sont placés en rétention pendant une durée anormalement longue, les exposant d'autant plus à des risques de contamination dans des lieux mal équipés et dans lesquels il est impossible d'assurer la sécurité de toutes et tous. Deux semaines et demie plus tard, alors que du coup le Conseil d'État avait refusé de fermer tous les CRA, deux semaines et demie plus tard, l'évidence s'imposait. De point, les CRA, lieux d'enfermement inutiles, sont des clusters en puissance et exposent les étrangers retenus et les agents intervenant sur place au danger d'une infection. Après avoir été informé d'un cas de contamination au Covid-19 au sein du centre de rétention de Vincennes à la fin du mois de mars, donc l'ADE, le SAF et le GISTI, ainsi que plusieurs retenues du CRA, on saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande visant à faire fermer le CRA de Vincennes, en l'occurrence. Le tribunal administratif vient de rendre une importante décision le 15 avril. Après une audience au cours de laquelle la préfecture a reconnu à demi-mot que le CRA de Vincennes était devenu un foyer de contamination, donc selon l'administration, au moins une quinzaine d'agents de la PAF, la police aux frontières, avaient été infectés par le coronavirus, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment enjoint à l'administration de ne plus admettre de nouveaux entrants pour l'exécution des mesures de rétention. Donc du coup, a priori, le juge là dit que le centre de rétention ne devrait plus accueillir, enfin accueillir c'est un gros mot, mais de nouvelles personnes, ne devrait plus admettre de nouvelles personnes dans le CRA, bien qu'il en reste quand même à l'intérieur. Donc je continue le communiqué. Au-delà du dispositif, ce sont les motifs exposés dans la décision qui doivent retenir l'attention des autorités administratives et juridictionnelles. À l'instar de l'ensemble des requérants, le juge des référés constate en effet que l'utilité du maintien de l'ouverture du centre reste très marginale compte tenu du ralentissement de fait des procédures d'éloignement. Il remarque qu'en période d'état d'urgence sanitaire, en prolongeant l'ouverture des CRA de Vincennes, alors même que plusieurs retenues et agents ont été contaminés, le préfet de police entretient le foyer de contamination qui a été récemment identifié au sein de ce centre. Et il méconnaît de ce fait les impératifs de santé publique qui s'imposent à lui en vertu de l'état de catastrophe sanitaire mettant en péril la santé de la population, déclaré par la loi du 23 mars. Ce sont là, continue le syndicat, ce sont là très précisément les craintes que l'ADE, le SAF et le GISTI avaient exprimées devant le juge des référés du Conseil d'État, dans le cadre de la procédure antérieurement menée pour obtenir la fermeture de l'ensemble des CRA. D'ailleurs, elles ont été jugées suffisamment sérieuses pour que le contrôleur général des lieux de privation de liberté décide de se rendre dès hier au centre de rétention de Vincennes et au Ménil-Amelot dans les prochains jours. Nous exigeons désormais que les autorités administratives prennent conscience des responsabilités qui sont les leurs et agissent, enfin, conformément aux objectifs de protection de la santé publique qui pèsent sur elles, en fermant l'ensemble des CRA. Voilà. Bon, c'est un communiqué qui vaut ce qu'il vaut, mais du coup, voilà, un syndicat qui signe la demande de fermer les CRA, alors même que... Alors, moi, j'ai pas de nouvelles de comment ça se passait à Vincennes et au Ménil-Amelot, mais du coup, on a entendu plusieurs fois, là, dans les jours dans les jours précédents, que les détenus se bougeaient beaucoup à l'intérieur, quoi, via des grèves de la faim ou le refus de réintégrer les bâtiments, de dormir dehors et tout ça. Alors apparemment, ça a été bien maté par les flics, mais on n'en sait pas plus. Alors là, peut-être que les avocats prennent le relais, je ne sais pas, mais ou les huiles, les institutions se déplacent au Mini-Lamelot, je ne sais pas. Enfin, c'est encore une affaire à suivre, quoi. Mmh.